Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, toujours au 102.2 sur Lyon et sa région et sur radiocanu.org. Il est 22h04 et quelques petites brouettes, comme dirait Emma. Et après Angle Mort, c'est la causerie. Et ce soir, à la causerie, il y a Clara la technique.
Bonsoir.
Il y a Fab.
Salut.
Et puis bah il y a moi.
Salut Jean-Yves.
Bonsoir. Alors la causerie. Et bah déjà, ce qu'on va faire, bah on a déjà salué un petit peu une des absentes, mais qui reviendra très rapidement. C'est Emma. Il y a aussi Jonathan et Nadège, voilà, à qui on fait des bisous.
Oui.
Bah oui.
Bah oui, parce que on est triste qu'elle soit pas là.
Bah oui, et puis on va me faire des bisous. Enfin bon.
Révèle pas tous les dessous de la causerie.
C'est vrai, on va pas trop en dire. Alors, la causerie, bah, comme d'hab quand même, pour nous contacter, eh ben, y a le mail, tu peux peut-être le rappeler.
lacausericanu@gmail.com.
C'est ça, on a aussi un espace blog où vous retrouvez tous les podcasts et des fois des infos un peu complémentaires à nos émissions. Alors, enfin... pas forcément complémentaire, mais ça va être sur des liens sur lesquels on s'est appuyé pour faire nos différentes chroniques. Donc vous trouvez toutes ces infos sur l'espace blog qui est à blog au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/la causerie. Voilà. Et ben ce soir, format un petit peu habituel,
oui,
en fait. Et on va commencer en fait par une la lecture d'un texte.
Oui, alors je vais un peu le situer. Il y a donc, comme vous le savez, une manifestation qui est appelée à Paris le 31 octobre et qui est une manifestation qui se présente comme une marche pour la dignité et contre le racisme, mais les personnes qui appellent ont suscité l'interrogation de certains militants et notamment des militants anarchistes. Et donc on va vous lire un texte issu de plusieurs militants anarchistes qui sont interrogés autour de la notion de race au sens large. Alors le texte s'appelle « Nique la race » ou « Comment éclatent les frontières entre l'extrême droite et l'extrême gauche du pouvoir ». Le 31 octobre à Paris a lieu la marche pour la dignité et contre le racisme organisée et signée par un certain nombre de groupes d'individus pour le moins ambigus sur leur rapport avec l'extrême droite ou l'islamisme politique et la récupération mutuelle de leurs idées. Elle marque l'avancée d'une mystification grossière et de plus en plus courante qui ne peut fleurir que sur le vide et l'ignorance qui caractérisent cette époque décomposée. Parfois, il n'y a pas d'ambiguïté, comme par exemple avec Tariq Ramadan et ses frères musulmans, maître du double langage et partisan d'un moratoire sur la lapidation des femmes. On nous parle de race et d'antiracisme dans la même phrase, un boulevard ouvert au XIXe siècle par certains courants racialistes et colonialistes de gauche, et arpenté depuis quelques années par Dieudonné, Soral et leurs amis les indigènes de la République, avec l'appui de quelques antifascistes perdus et d'investissements divers des actionnaires internationaux de la réaction. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu irritée. Vous allez marcher aux côtés du mouvement Le Pire, qui appelle, comme par Alors, excusez-moi, c'est très mal imprimé. Vous allez marcher aux côtés d'un mouvement, le PIR, qui appelle, comme le parti nazi à une autre époque, à la lutte des races. Un concept remis à l'ordre du jour par des universitaires qui font leur carrière dans le sillon du philosophe des ayatollahs Michel Foucault ou du darwiniste social Ludwig Gumplowicz.
L'idée de race, entendue comme classification des différents groupes ethniques de l'espèce humaine, a été abandonnée par les sciences autour du 19e siècle, car la variabilité génétique entre individus d'un même groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre groupes géographiquement éloignés. La race n'est donc pas un critère biologique valide, ou crédible depuis déjà longtemps, du moins en ce qui concerne la description de l'espèce humaine. Le terme continue d'être employé pour les autres espèces animales, pour lesquelles les races sont distinguées à des fins d'élevage et de sélection. Une utilisation que nous ne trouvons pas beaucoup plus acceptable, mais ce n'est pas le sujet du jour. L'utilisation des races, appliquée aux humains, a malgré cela perduré encore quelques décennies dans l'usage courant, entendre au café du commerce. C'est derrière ce concept que se sont organisées les rafles et l'extermination des juifs et des tziganes d'Europe par les nazis et leurs relais locaux, comme l'État français. Aux races inférieures, les nazis opposaient la race supérieure, celle des forts, des nordiques, les ariens. Rien de nouveau donc, lorsque l'on analyse la nouvelle maraude des indigènes de la République et leurs amis racialistes, le dit « philosémitisme d'État ». D'un État français qui a donné le plus possible des juifs qu'il avait sous la main pour les parquer, les exploiter, les exterminer. On reste sur les plates-bandes piégées d'Éric Zemmour qui, lui, nous explique de la même manière que Pétain a sauvé des juifs.
Or, le racisme doit être combattu sous toutes ses formes, celui des opprimés comme celui des dominants, celui des Zemmour et des Le Pen comme celui de l'homophobe Boutelja, qui n'a rien d'une opprimée, mais tout d'une hipster, issue de la bourgeoisie universitaire franco-algérienne, et des racistes sororales et dieudonnés, qui s'en mettent plein les poches au passage. Mais également, le racisme entre opprimés. La destruction des Juifs d'Europe, Ouria Boutelja, patronne des indigènes, la décrit comme d'une historicité douteuse, rendant ainsi hommage au père spirituel du négationnisme pro-nazi, Robert Forisson, et ses nouvelles mules, sorales et dieudonnées. De même, le discours qui consiste à associer les Israéliens, et les Juifs évidemment, à l'État d'Israël, et les Palestiniens et les Arabo-musulmans, aux autorités palestiniennes, ou alors le sionisme et le judaïsme, les Juifs SDF et les Juifs banquiers, les fédaïms du Moyen-Orient et les Arabes et musulmans d'ici, qui peuvent aussi bien être patrons, militaires, juges ou flics, etc. Fini la lutte des classes et place à la lutte des races, les races sociales même. Tout n'est que raccourci, parce que les raccourcis sont plus faciles à faire avaler à des ignorants que des pensées complexes, documentées et un tant soit peu sérieuses, sans parler même du révolutionnaire. Un truc de blanc, la révolution, nous dit-on parfois, sans aucun fondement historique réel.
Le concept de race a aussi été utilisé pour justifier, par exemple, les zoos humains dans lesquels, en Europe, on exposait dans des cages des individus de race inférieure. Des individus captés comme du gibier dans les colonies, aux occidentaux, comme une curiosité exotique à côté des femmes à barbe et des concours de lancers de nains. Le colonialisme, lui-même, était basé sur le concept de race et sur la prétendue supériorité des unes sur les autres, ou, selon les points de vue, des unes des autres sur les unes. Ce sont les mêmes conceptions qui ont permis l'esclavage de populations entières par d'autres à travers les âges et à des échelles monstrueuses. Comme lors des différentes traites des Noirs ou le commerce triangulaire sur lequel les États occidentaux, mais aussi d'autres régions du monde, notamment celles où étaient capturés les esclaves, se sont enrichis pendant des siècles. L'utilisation du mot a perduré encore quelques décennies dans un usage le plus souvent lié à l'ignorance et à l'habitude jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisé que par des courants racistes ou racialistes, mais nous laissons la distinction aux taxidermistes. D'extrême droite, comme les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan, aux USA, ou chez les Afrikaners de l'apartheid sud-africaine, mais aussi chez les suprémacistes noirs de Louis Farrakhan, etc. Dans tous les cas, il nous paraît important de rappeler que les races sont des constructions sociales sans aucun autre fondement que les idéologies et les traditions réactionnaires. Un concept qui n'a jamais servi à rien d'autre qu'à créer des hiérarchies entre les individus sur des critères socio-biologiques orientés pour d'un côté gommer les différences entre les classes au service de la guerre aux pauvres et séparer les exploités dans les petites communautés fermées où seuls les siens comptent et le reste du monde peut bien crever.
Aujourd'hui, le concept de race semble vouloir faire son retour, mais pas uniquement à droite. Cela fait des années que dans certaines mouvances d'extrême gauche, des racialistes d'un genre nouveau sont en train de reprendre le pouvoir. Fondamentalement, le racialisme de gauche n'est pas nouveau. Il a servi, en prouvant l'infériorité des colonisés, à justifier la colonisation de gauche, entre autres méfaits. La différence avec celui de droite, c'est souvent qu'il se veut bienveillant, éduquer les sauvages, leur apporter nos lumières et autres balivernes civilisatrices et paternalistes. Lorsqu'à droite, il se veut toujours malveillant et parfois exterminateur. Suite à une longue dérive, ce néo-racialisme, qui n'a de nouveau que les protagonistes, marque la prise de parti racialiste de toute une gauche identitaire qui classe et trie les individus selon leurs origines ou leurs pantones et leurs épidermes. Comme la droite identitaire, elle racine de façon mécanique, comme les marxistes autrefois avec le prolétariat, une tâche historique. La seule différence, répétons-le, c'est que le tri se fait pour la promotion à gauche et pour l'exclusion à droite.
Les nouvelles idéologies de gauche, souvent issues de l'université, comme les post-colonial studies et les radical studies en général, l'intersectionnalité, certaines formes de féminisme ou d'antiracisme, remettent le concept au goût du jour, l'air de rien. La proposition organisationnelle de la non-mixité, par exemple, en est l'un des meilleurs exemples. Cela principalement lorsque les critères de cette non-mixité sont basés sur des critères racialistes, noirs, blancs, etc. Mais à partir de quel degré ou pourcentage de mélanine peut-on être considéré comme noir ou blanc ou ni l'un ni l'autre ? De la même manière, les tailles et les formes du clitoris et du pénis sont tellement variables que nous posons la même question sur le genre. Comment enfermer un individu, avec toute sa complexité et son unicité, dans des cases aussi fantoches que noir, blanc, femme, homme, mais aussi homosexuel, hétérosexuel, juif, chrétien, musulman? Un individu homosexuel est-il homosexuel à 100% ou à 33% s'il a déjà eu du désir pour un individu du sexe opposé? Est-il toujours à sa place en non-mixité homo? À partir de quel pantone doit-on se considérer comme noir, blanc, jaune ou on ne sait quoi d'autre? Plutôt U78566 ou UE988009? Qui décide de qui est noir ou blanc, de qui est l'Untermensch et de qui est l'Aryen?
Toutes les catégories qui réduisent les individus à des critères biologiques ou sociobiologiques ou à des identités fixes sont des catégories du pouvoir qui n'ont jamais servi à rien d'autre qu'à séparer les humains entre eux, pas sur des critères de classe ou sur des critères liés au choix individuel des uns et des autres, hop là, mais sur des critères imaginaires, essentialistes et englobants. On est noir ou blanc, on est français, espagnol, israélien ou palestinien, comme on est juif, chrétien ou musulman. C'est-à-dire par choix, par assignation ou par intériorisation des catégories du pouvoir. Dans les trois cas, le résultat est le même, le repli identitaire, tribal et communautariste. Mais les identités sont des illusions et des fantômes sur lesquels se sont toujours recroquevillés les exploités en période de crise sociale, relayant les imaginaires de division du pouvoir pour perpétuer la paix sociale, l'autre nom de la guerre aux pauvres. Si nous tenons à l'idée d'une rupture avec ce monde de fric et de flics, il nous faudra abandonner toutes ces catégories du pouvoir qui ne servent qu'à diviser pour mieux régner, et donc assurer la domination de l'économie et des États sur les populations.
Aujourd'hui, il n'est plus possible de nier que, par exemple, les indigènes de la République ont rejoint les thèses racialistes de l'extrême droite, ou bien pour le dire simplement, qu'ils ont rejoint l'extrême droite pour y former une nouvelle tendance qui ne diverge d'avec les autres que sur un seul point. Un vieux fonds de commerce gauchiste et l'inversion des schémas racistes ordinaires, mais toujours les mêmes vieux schémas pourris de l'intérieur, c'est-à-dire la race, et le plus souvent l'homophobie, le sexisme et la haine du juif. Pas étonnant alors que derrière eux se meuvent des groupes religieux, alliés historiques des totalitarismes divers, comme les frères musulmans, en termes de financement comme en termes d'apport idéologique et pratique, au même titre que les Black Panthers, la Nation of Islam ou le Hamas.
Révolutionnaires, nous devons remettre la race dans les poubelles de l'histoire où nous l'avons trouvée, sous peine de rendre impossible toute transformation radicale de l'existant. À l'heure où les frontières entre extrême droite et extrême gauche n'avaient pas été aussi floues que depuis la Belle Époque et les thèses immondes de Gobineau sur l'inégalité et l'existence des races, le simple fait que nous ressentions le besoin de réexprimer de telles banalités que les races n'existent pas, à l'occasion d'une manifestation prétendument antiraciste, devrait être un signe d'alarme assez fort. L'heure est grave et nous insistons. Il n'y a pas de race, seulement des racistes. Contre toute forme de racisme, racialisme, racisation. Et c'est signé des anarchistes contre le racialisme. Voilà, c'était un texte qui nous semblait important de faire connaître ce soir.
Ouais.
Et qui alimente un débat qui est aussi important au final. Et c'est très bien.
Le débat, c'est un peu quand même la vie. Hein.
Ouais. Et quand même, on va quand même un petit peu faire un tour de ce qui circule à droite à gauche sur Internet notamment. Où certaines personnes disent qu'il ne faut pas mettre le pire ou les indigènes de la République au milieu de l'appel qui est fait par là. Alors j'ai perdu le nom, tu vas l'avoir.
C'est la MAFED.
La MAFED,
c'est voilà. La marche des femmes pour la dignité.
Voilà. Et en fait, quand on fouille un peu, et c'est assez simple, hein, il suffit par exemple d'aller voir l'interview de BAMS, qui est une des cofondatrices de la MAFED, et elle vous explique qu'en fait, la MAFED, elle est née pendant les 10 ans du pire. Donc elle est née au moment de la fête du pire, on va dire ça comme ça. Alors pire, c'est partie des indigènes de la République. On le rappelle. Donc c'est un petit groupuscule, hein, c'est pas des milliers de personnes, mais par contre leurs idées sont quand même extrêmement limites. Ils ont fait des sorties homophobes assez marquées au moment de la Manif pour tous. Ils ont même, pour certains, appelé à manifester avec la Manif pour tous. Ils ont été très clairement, y compris les indigènes de la République, à essayer de pondre un texte qui expliquait que l'homosexualité n'existait pas dans les quartiers populaires, mais qu'il était une importation blanche. Enfin, c'était hyper tordu, mais en fait, au final, quand on lisait le texte, on se demandait un petit peu vraiment ce qui les gênait le plus, si c'était le fait qu'il y ait de l'homosexualité dans les quartiers populaires ou qu'on puisse imposer le mot homosexualité. Donc, c'était très, très ambigu. Enfin, c'est toujours un petit peu ambigu avec ces deux mouvances-là.
Et puis après, enfin, moi, j'ai déjà eu, on a déjà eu l'occasion, moi, d'avoir un échange avec des gens qui étaient déjà une fois, pour s'enseigner, parce qu'ils se sont dit, tiens, effectivement, des gens qui s'organisent, ça peut être intéressant d'aller voir, et qui, cette personne était de, c'est terrible.
Non, cette personne était noire et c'est
non, 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 mais c'est pas terrible, mais on doit revenir sur des toujours sur des classifications comme ça.
Oui, oui.
C'est... Et donc cette personne était noire et cette personne disait que elle-même avait des enfants métis. Ce à quoi une personne, alors bien évidemment, on va me dire que c'est pas représentatif d'eux, mais quand même quand on peut entendre ce genre de phrase, et on lui a répondu, tes enfants sont un déshonneur en fait pour la race. Juste là, enfin, c'est des propos comme ça.
C'est flippant quand même.
C'est flippant quoi. Enfin, je veux dire, on est en 2015 et ça se dit progressiste. Moi, c'est plus ça qui me dérange.
Alors,
que Marine Le Pen tienne ses propos, elle est d'extrême droite, clairement. On sait
Nadine
tous.
Morano, on n'est pas
Nadine
surpris.
Nadine Morano, on n'est pas surpris. Non, parce que.
Ah non, on n'est pas surpris, malheureusement.
Là, effectivement, c'est le truc, c'est que c'est des gens qui se prétendent, effectivement, comme le dit le texte, hein, avec un vieux fond d'idéologie qui serait de gauche. Mais qui
dans les faits, en fait, ça. Ne sont qu'un effet miroir de la position qu'a l'extrême droite française depuis des années, ou qui reviennent en fait à ce qu'on appelait le tiers-mondisme, c'est-à-dire un mouvement quand même qui a servi, comme il le rappelle dans le texte, dès le 19e siècle, à justifier la colonisation quand même. Et c'est pas le tiers-mondisme en tant que tel, le tiers-mondisme c'était l'héritier de ce mouvement-là, qui voyait toujours les peuples du Sud ou les peuples des pays non développés comme étant inférieurs de toute façon aux peuples développés. Ce qui est déjà une hérésie au départ. Et voilà, donc c'était pour nous intéressant de poser ce texte en débat, parce que parce qu'on estime, alors là c'est un langage que Jean-Yves et moi pour l'heure à la causerie, vous savez que c'est chaque chroniqueur fait ce qu'il juge juste. On a une notion de la parole ouverte assez importante ici, mais ça nous semblait important que ce débat soit posé, parce qu'après vous faites ce que vous voulez le 31 décembre, vous pouvez monter à Paris
31 octobre.
Ah oui, 31 décembre c'est nouvel an, c'est pour ça. Le 31 octobre, vous faites ce que vous voulez, vous allez à la manif si vous voulez, vous n'y allez pas si vous voulez, mais c'est intéressant pour nous de poser un débat qui est un débat de fond et qui n'est pas là pour dire tel ou tel, mais qui montre que le fond de l'appel et la façon dont les choses sont rédigées, l'appel est quand même très clair, il parle de lutte des races, et moi je suis désolé, comme le disent nos camarades et compagnons anarchistes qui ont écrit ce texte, le seul parti dans l'histoire qui a parlé de lutte des races, c'est le parti nazi. Donc on peut essayer d'inverser inverser tout dans le truc pour jouer à je suis voilà. Bah, mais là c'est quand même pas c'est reprendre un concept qui est quand même foutrement bizarre quoi.
Oui, bah, alors là c'est pas du tout pour dédouaner quoi que ce soit, mais c'est les signataires, c'est très 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 large.
Oui, oui.
En fait, et je pense que c'est là, je pense qu'il y a certaines assos qui vont se rendre compte d'un piège à un moment donné. Enfin, vraiment. Parce que je ne pense pas que toutes les personnes qui vont dans les collectifs, parce qu'il y a des collectifs en fait qui sont contre les violences policières,
oui,
etc. Et je ne suis pas, je suis pas là pour dire que ces personnes-là partagent 100% des idées du pire. Effectivement.
Non, moi non plus.
Mais je me dis que il y a un souci quand même. Il y a un vrai problème. Il y a un mélange des genres qui pue, qui schlingue vraiment. Quoi.
Bah moi, je vais le dire, mais ça n'engage que moi du coup. Je suis très surpris de la vigilance que peuvent avoir certaines personnes, notamment dans les milieux antifascistes, à dire on ne manifeste pas à côté du PS parce que ce sont des salauds.
Bah par exemple, pour les religions, voilà, on avait un collectif de vigilance.
Ce que je trouve pas forcément injustifié.
Non, mais qui regroupait de vastes.
Mais qui là, en fait, d'un seul coup, bah ferme les yeux. Et ça m'étonne un peu. Quoi, parce que pour moi, le fascisme, d'où qu'il vienne, il n'est pas acceptable. Quoi.
C'est ça.
Voilà. C'est un avis personnel, là, pour le coup.
Ah, mais aucun fascisme, en fait. C'est pas un fascisme sera meilleur que l'autre.
Ah non.
Aucun.
Parce que j'ai pas envie d'en choisir un.
C'est ça. Entre la peste et le choléra, je prendrai aucun des deux. Merci.
Pourquoi choisir?
Est-ce qu'on passe.
Un petit peu de musique.
On passe à la zik.
Ouais.
Bah, allez.
Dans la causerie sur le 102.2, on vient d'écouter Stubbers Blues du groupe High Monster.
Oh, comment c'était bien dit.
Et là, en fait, elle nous en veut à mort. Hein.
Non, en fait je voudrais qu'on me lance.
Alors, effectivement, c'est Fab. Ah bah oui, tu continues avec le deuxième sujet que tu viens de parler du camp de Rivesaltes.
Oui, alors c'est un petit peu en lien finalement avec le texte qu'on a lu avant. Parce que justement, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait donner une vision de ce qu'est une politique racialiste, c'est-à-dire quelque chose qui était appliqué par l'État concrètement. Et ben, en fait, je suis retombé sur le fait que Manuel Valls, notre cher grand premier ministre devant je sais pas quoi, donc en gros le gars qui en ce moment a le tout pouvoir parce que des gens ont décidé de voter pour lui, et ben en fait il est allé inaugurer le mémorial du camp de Rivesaltes. Alors c'est intéressant parce que il faut savoir que le camp de Rivesaltes, pendant des années, la France elle a fait un petit peu comme s'il n'existait pas. Alors on va se rappeler un petit peu de ce qu'est le camp de Rivesaltes. C'est un camp qui donc est à Rivesaltes, la ville, qui a été fait à flanc de montagne. Donc il y faisait extrêmement chaud l'été et super froid l'hiver, pour un petit peu situer. Et on a pris un grand terrain sur lequel on a monté des baraques. Alors c'est des baraques de fortune, hein, c'est pas des super beaux trucs. Non, c'était vraiment des baraquements comme on peut imaginer un camp de rétention. D'accord, c'est-à-dire ouais. C'est des baraquements, okay. Vous voyez, en dur, avec des toilettes à l'extérieur qui étaient à vider, c'est-à-dire avec des seaux. Donc il fallait que les gens qui occupaient le camp vident les seaux régulièrement. Et pas d'accès à l'eau. Quasiment. Il y avait deux fontaines dans le camp, c'est-à-dire voilà, deux accès à l'eau. Et le camp a contenu jusqu'à des dizaines de milliers de personnes. D'accord. Donc on voit tout de suite le problème quand on a deux points d'eau et des dizaines de milliers de personnes, ce que ça peut faire. Et surtout le camp, donc, il date des années 30, période où justement la politique racialiste était très 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 à la mode, y compris à gauche, où on faisait du différentialisme assez facilement, en expliquant par exemple que les Espagnols qui fuyaient la guerre d'Espagne, ils n'étaient pas comme nous, et qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer tout de suite dans la communauté magnifique qu'était la France, et qu'il fallait mieux quand même qu'ils passent par un camp pour qu'on puisse les trier. Vous voyez, voilà, bah c'est comme ça qu'est né le camp de Rivesaltes. Hein, vous voyez, ça pose les choses quand même. C'est
ça, on voit tout de suite la dimension
très humaine,
très humaine.
Très humaine et très humaine. Mais surtout, ça résonne beaucoup avec ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais clairement, ouais.
Et c'est intéressant parce que justement, le camp de Rivesaltes, il a une particularité, c'est qu'il a servi jusqu'à la fin des années 70. Donc, il n'a pas vu passer que les gens qui fuyaient la guerre d'Espagne. Il a effectivement servi aussi de camp de rétention pour les Juifs de France, du sud de la France. 5000 Juifs ont été déportés directement du camp de Rivesaltes vers les camps de la mort, pour replacer un petit peu l'histoire. Et puis, après la guerre, il a servi à mettre les Espagnols qui revenaient, vous savez la fameuse Nueve par exemple qui a libéré Paris, bah, quand ils sont revenus et qu'ils ont demandé à avoir une carte d'identité française, on leur a dit non, on va d'abord vous mettre dans le camp, ce sera vachement mieux. Donc on les a
dit. Déjà, ce qui est assez beau, j'ai envie de dire, enfin, c'est ironique hein, bien évidemment, ouais. C'est qu'après donc quand même avoir utilisé ce camp pour exterminer des gens, pour être une base de départ des gens vers le camp d'extermination.
On a gardé donc quand même ce camp en se disant tiens, on va
tout
continuer.
À fait, parce qu'on disait qu'on avait besoin en fait de ce moyen de tri pour la nation française, parce qu'en fait le camp de Rivesaltes, il a été pensé dès le départ comme une zone de tri. Et Et après la guerre, on y a mis les Espagnols, on y a mis les Tziganes aussi, qui revenaient en fait, parce qu'ils avaient beaucoup de Tziganes avaient été déportés, et notamment, je vous rappelle qu'on est dans le sud de la France et qu'il y a les Sainte-Marie-de-la-Mer. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'était un haut lieu de pèlerinage pour la communauté Tzigane européenne, d'ailleurs pas que française, et que, enfin Tzigane, alors c'est une partie Rom aussi, et puis Gitan et Manouche, je sais plus dans quel ordre il faut le dire, voilà, mais en tout cas, enfin c'est un haut lieu de pèlerinage, et qu'en fait, ben, la police française a attendu un pèlerinage pour en fait emmener un maximum de Tziganes à ce moment-là et les faire déporter. Sauf que bah, une partie sont revenus. Et quand ils sont revenus, eh ben, on les a mis dans le camp de Rivesaltes au lieu de les réintégrer dans la population où ils étaient déjà, je vous rappelle, avant. Donc là, on les a d'un seul coup, on a créé une sorte de distorsion en disant « Ah oui, mais après ce qu'ils ont vécu, parce que tout est excusable, hein, bien sûr, et tout est explicable, après ce qu'ils ont vécu, ils ne pourront pas se réintégrer directement. Donc il faut que... »
Bien sûr, il faut qu'on les mette dans un parc. C'est...
Évidemment. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est toute la logique racialiste, c'est-à-dire que c'est du racialisme d'État. Oui. C'est que d'un seul coup, on estime que bah, les autres sont inférieurs à nous et que du coup, il faut un temps pour les éduquer. Parce que le camp de Rivesaltes a été ouvert pour éduquer les populations qui étaient enfermées dedans, pour qu'ils s'adaptent à notre société. Vous voyez, c'est quand même, il y a toujours cette logique de séparation de l'humain, comme si les gens qui arrivaient étaient très très cons et qu'il leur fallait quand même un long moment pour arriver à se remettre en branle intellectuellement.
Mais c'est parce que la France, c'est très 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 très...
Non mais alors, on va se rassurer, parce que on va se rassurer, oui et non, c'est qu'il ne faut pas non plus penser que c'est que en France que ça se passait. Par contre, il y a une petite particularité, c'est que la France est le pays le plus bureaucratique d'Europe, comme vous le savez. Après nous, c'est la Pologne, hein, donc voilà. Et donc, en fait, la France avait très très tôt mis en place un ministère un peu étrange, qui était un ministère de la migration. Et parlait souvent de problèmes migratoires. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fait que des gens viennent est un problème. Donc, vous voyez, déjà, quand on commence à poser les choses avec la notion de problème, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que comme si les gens
Si qu'on part du principe que c'est un problème,
c'est une grosse emmerde.
Ça ne sera jamais quelque chose de...
Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a deux phénomènes qui en fait, se sont entrecroisés au moment de la création et de l'ouverture du camp de Rivesaltes. C'est d'un côté une administration française qui déshumanisait, en traitant ça par des chiffres et des problèmes, comme on le fait aujourd'hui avec les réfugiés syriens, ou d'ailleurs avec toutes les personnes qui sont migrantes, on a fait une émission dessus. En fait, on commence à les compter et à dire, bah, on en prend 24 000, s'il y a une famille, on la coupe en deux, c'est pas grave, on est à 24 000, donc voilà. On déshumanise totalement.
On est dans une gestion de matière, quoi.
C'est ça. Et en fait, la société française à l'époque, parce qu'on est quand même dans une période pré-fasciste, hein, faudrait peut-être pas l'oublier, pas oublier que Pétain n'est pas arrivé au pouvoir par hasard quand même, on est dans une période pré-fasciste et très clairement, les gens se contrefoutent du sort des gens qu'ils estiment être un problème pour eux. Et on leur présente comme un problème.
Ah oui.
Donc automatiquement, quand vous avez ces deux choses qui s'entrecroisent, et ben vous pouvez avoir la naissance de camps. Très simplement. C'est aussi ce qu'on observe aujourd'hui au Liban. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est un pays qui pendant une période, a fait de l'accueil, c'est-à-dire qu'on prenait les gens, on essayait de les loger, de leur trouver... et l'ONU, qui a cette vision un petit peu racialiste par moment, hein, qu'on ne faut pas non plus le nier, elle a créé des camps de réfugiés. Mais quand vous commencez à créer un camp de réfugiés, c'est que vous voulez faire une scission parfaite entre la population qui est présente et les gens qui sont dans le camp. Vous ne voulez pas que les gens se mêlent, qu'ils discutent, qu'ils puissent habiter les uns avec les autres, non? Vous créez une scission entre les gens d'un côté de la barrière et de l'autre côté de la barrière. Donc on voit que cette logique de camp, elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a les camps d'urgence. On ne va pas dire qu'un camp d'urgence, ça ne sert à rien. Mais quand le camp d'urgence, comme c'est le cas des camps palestiniens, perdure depuis maintenant 40 ans, c'est plus de l'urgence là. C'est qu'on a mis en place carrément quelque chose qui est une ségrégation de fait. Et bien le camp de Rivesaltes en France, c'était ça. Donc après les Gitans et les Tziganes et les Roms, on y a enfermé ensuite les harkis, parce qu'ils revenaient d'Algérie. Et du coup, on estimait que cette population, quand même, qui était un peu étrange, parce qu'on leur a même pas donné de papier, hein, je vous rappelle, ils sont harkis, c'est pour ça que ça s'appelle harkis, c'est qu'ils n'ont pas de papier français, mais ils ont combattu du coup, côté des Français. Enfin bref, on en a laissé des milliers se faire massacrer sur place. Et en fait, on les a parqués dans ces camps. Et il y a un excellent téléfilm, d'ailleurs, avec Smaïn, qui parle du camp de Rivesaltes pour les harkis. Et il montre à quel point ce téléfilm, parce que c'est intéressant, parce que Smaïn a fait ce téléfilm en mémoire de plusieurs personnes de sa famille. Alors, il n'a jamais voulu rentrer dans les détails. Et il montre à quel point les gens, du coup, acceptaient ces conditions-là, parce que c'était ça ou la mort, quoi. Et comme on leur interdisait de travailler par ailleurs, Bah, vous voyez un petit peu le problème. C'est-à-dire que vous êtes dans un camp, vous n'avez pas le droit de travailler, vous ne pouvez pas sortir du camp, il y a des horaires, vous êtes fliché, vous êtes fliqué. Vous devez vous survivre parce que vous êtes dans des conditions qui sont inadmissibles, il ne faut pas non plus se mentir. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'en ce moment, on en parle, mais on ne parle pas du fait qu'il y a un rôle extrêmement important de l'administration française, et donc de la France. On essaye de parler du camp de Rivesaltes comme s'il était hors sol, c'est-à-dire comme si d'un seul coup il avait existé comme ça. Bon, bah tiens, il y a un camp, dis donc. Et ben, alors, sauf qu'en fait, c'était quelque chose qui était pensé et qui était extrêmement bien pensé. Alors, bien, quand je dis bien, c'est dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que c'était l'administration parfaite, d'un point de vue des racialistes de l'époque, d'une séparation et d'une ségrégation d'une partie d'une population qui arrive par rapport à la population française. Voilà, c'était ça le camp de Rivesaltes. Et on a un petit peu tendance à oublier que ben, c'est l'administration qui entraîne ça. Et quand aujourd'hui, pour faire un parallèle avec de nos jours, vous avez des journaux qui parlent du problème migratoire, vous avez un ministre de l'Intérieur qui est aussi ministre de l'Immigration. Je ne savais pas qu'il y avait besoin d'un ministre de l'Immigration. Moi, il me semblait quand même que quand quelqu'un voulait s'installer, ça relevait du ministre du Logement. Quand quelqu'un voulait mettre ses enfants à l'école, c'était le ministre de l'Éducation, il me semble, hein, si je ne me trompe pas trop. Et puis que pour le travail, c'est la ministre du Travail. Enfin, il me semble que ça marche à peu près comme ça. Ben non, il y a un ministre qui a tout pouvoir sur les populations migrantes aujourd'hui. Et on voit qu'on retombe dans la même logique de ségrégation que celle qui est prévalée dans les années 30. Alors, je vous renverrai un livre que je n'ai pas entièrement lu, mais dont j'ai lu des extraits, qui est de Philippe Corcuff et qui dit que les années 30 sont de retour et la gauche ne voit rien venir. Voilà, et qui est un excellent texte où, justement, il explique en quoi toute la politique racialiste des années 30 est en train de réapparaître aujourd'hui et qu'une partie de la gauche y participe au nom d'un tiers-mondisme bienveillant. Et que, bah, quand on commence à participer à la ségrégation des gens par la race, ça marche à chaque fois pas, et ça donne à chaque fois ce qu'on a déjà connu dans l'histoire, sous des formes différentes et variées, hein. Parce qu'il n'y a pas que les nazis, il y a eu d'autres exterminations dans l'histoire, le génocide arménien ou des choses comme ça, donc, ou le Congo, ou, voilà, ou le Rwanda. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on commence à mettre le doigt dans la race, eh ben, ça n'amène jamais du bon. Et ça aurait été bien quand même que l'inauguration du mémorial du camp de Rivesaltes serve à remettre à plat notre vision qu'on a des gens qui simplement fuient la guerre pour venir se réfugier un temps chez nous et qui comptent repartir parce qu'ils le disent tous, eux, chez eux, c'est là-bas, ils n'ont pas envie de rester. Et puis pour ceux qui ont envie de rester, bah, c'est pas vraiment un problème, quoi. Ah ouais. Je vous rappelle juste que le solde migratoire de la France est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent que de gens qui rentrent, donc jusqu'à preuve du contraire, ça s'appelle pas une invasion. Donc voilà. Et c'est un truc un peu fou, c'est, voilà, c'est que j'aurais aimé que cette inauguration-là soit aussi une façon, bah, pour nous, les progressistes, de rebondir sur ce que c'est qu'une politique racialiste. Voilà.
Ouais, mais ça fait appel à l'histoire, et je crois qu'en ce moment, l'histoire, en fait, on a tendance à l'oublier. Alors, je sais pas si c'est que d'aujourd'hui, mais je crois que... Et c'est bien pour ça que toutes les merdes, les pires, peuvent se reproduire assez facilement. C'est parce qu'on ne retient rien, et que pourtant, ça remonte pas à il y a 10 siècles, quoi.
Mais
c'est à portée de main, quoi.
C'est toujours la vision fantasmée de l'histoire, soit par le roman national, soit par une vision complètement tronquée qui viendrait à dire, par exemple, que comme l'a dit cet imbécile de Mélenchon, que Mein Kampf aurait créé le nazisme, alors que c'est complètement stupide, c'est pas Mein Kampf qui a créé le nazisme. Mais quand on voit les choses comme ça, ben justement, on se plante, parce que voilà, c'est comme si le petit livre rouge avait créé le maoïsme, quoi.
Et enfin, c'est comme tu dis, en fait, effectivement, si je comprends quand tu disais hors sol, en fait, c'est comme si c'était pas nous.
Mais c'est ça.
C'est ça.
Alors c'est bien nous.
C'est pas des humains qui ont fait ça.
Le camp de Rivesaltes, il est à côté de la ville de Rivesaltes. Hein. Il est quasiment dans la ville, quoi. Enfin, il est à la sortie de la ville. Donc, les gens voyaient bien les gens qui étaient dans les camps. Donc, c'est bien que la population participait aussi par une vision racialiste, raciste, à l'élaboration et à la mise en place de ce camp. C'est juste ça, en fait. Et que tant que l'on ne regardera pas l'histoire en face en expliquant que c'est une question de majorité-minorité, comme toujours ça marche comme ça, et que tant qu'une majorité de gens auront des thèses racistes ou racialistes, et ben de toute façon, on ne pourra qu'à vivre la séparation au lieu de vivre ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire la lutte des classes communes. Parce que, voilà, la réalité, elle est là, en fait. C'est que les gens qui arrivaient, et ben, ils étaient des travailleurs et des travailleuses et des pauvres et des pauvres comme les autres.
En plus, alors là, je reprends pour cette histoire de camp, c'est ce que l'Allemagne va mettre en place aussi, non ?
Mais en fait, c'est ça, c'est que la logique de camp, elle réapparaît. À chaque fois qu'il y a un problème, entre guillemets, comme ils disent, de migration, on sort la carte du camp.
Ouais, c'est un truc, en fait, de fou. C'est vraiment ça, c'est une gestion administrative de la matière première humaine. Quoi.
Et les Allemands comme les Français viennent d'annoncer qu'ils allaient faire du tri. C'est-à-dire va garder ceux qui nous intéressent et on revient aux mêmes logiques que l'on avait dans le passé. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'immigration choisie, ce qui est une débilité profonde. Et le problème, c'est que les citoyens laissent faire. Et le vrai souci, il est là, en fait.
Et puis, alors, j'ai un vieux vague souvenir, mais je crois que sous la droite, en fait, on parlait d'immigration choisie.
Tout à fait.
Et là, je crois que c'était un peu un branle-bas de combat, quand même, hein, chez les progressistes, parce que quand même...
Ouais.
Mais là, vu que c'est fait par le PS, c'est que maintenant, ça doit être...
C'est pas plus acceptable. Non, ce qui a changé... Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, mais ce qui a changé aussi, c'est les médias.
Ouais.
Il faut pas nier qu'aujourd'hui, la façon dont le drame des personnes qui arrivent aujourd'hui en Europe est traité est hallucinante. Par exemple, quand on vous dit, imaginez, la France doit absorber 24 000 personnes. Je rappellerai que 24 000 personnes, c'est un stade de foot.
Mais c'est ça, 24 000 personnes.
Donc, j'ai envie de vous dire, absorber 24 000 personnes, on devrait y arriver assez facilement. Et d'ailleurs, il y a une personne qui est assez intéressante, alors j'ai pas dû son nom, excusez-moi, mais qui est une docteure en sciences politiques et qui disait, il faudrait voir en fait le fait qu'à une époque, la France a vu et absorbé, comme ils disent, j'aime pas ces termes-là, mais voilà, j'aime pas le terme assimilé non plus, il veut rien dire, mais absorbé une arrivée de population jusqu'à 16 fois plus importante en un mois. Ça s'est déjà vu dans l'histoire et qu'on n'en est pas, qu'on s'est pas effondré. Et c'était à une période où la France n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Non, c'est juste qu'on veut pas répartir les richesses comme toujours et qu'en fait on met l'opprobre sur ces populations-là parce que ça sert à ce que les gens ne regardent pas ce qui leur arrive à eux. Quoi.
Ah mais c'est aussi que ça participe toujours à se gouverner par la peur en fait. Quoi.
Exactement.
Gouverner par la peur, la peur de l'autre aussi.
On va avancer parce qu'on est bien à la bourre.
Ah ouais, on est à la bourre.
Un peu de musique, c'est parti.
Les rois sont partis un matin pour faire la guerre et ça fait sourire Jean-Marie le vagabond. Les rois sont partis en disant c'est la dernière, on peut s'endormir calmement dans nos maisons. À se taper dessus, on va l'avoir dans le dos. Quand on n'en voudra plus, il sera trop tard pour changer de vélo. À trop faire les andouilles, il nous brise les pieds. Et qui c'est qui dérouille? C'est toujours ceux qui n'ont rien demandé. Les rois avaient dit, on va transformer la terre en jardin fleuri. Tout le monde sera bon. Les rois avaient dit, il n'y aura plus de misère et les malandrins finiront dans les prisons. À se taper dessus, on va l'avoir dans le dos. Quand on n'en voudra plus, il sera trop tard pour changer de vélo. À trop faire les andouilles, il nous brise les pieds. Et qui c'est qui dérouille? C'est toujours ceux qui n'ont rien demandé. Les rois ont promis que la vie deviendra belle si on est gentil en écoutant leur refrain. Les rois ont promis d'aller conquérir le ciel, les trésors aussi cachés dans les souterrains. Les rois ont envie quelquefois de faire confiance à tous les marchands de légendes et de canons. Les rois ont envie de mesurer leur puissance, les nains, les géants passent à la télévision. À se taper dessus, on va l'avoir dans le dos. Quand on n'en voudra plus, il sera trop tard pour changer de vélo. À trop faire les andouilles, il nous brise les pieds. Et qui c'est qui dérouille? C'est toujours ceux qui n'ont rien demandé. Les rois sont rentrés ce matin de faire la guerre, couverts de médailles, de poussière et de rayons. Ils ont retrouvé le lit, la femme et la terre, et quelques bâtards qui chantaient dans la maison.
Et oui, c'est bien la causerie 22-23 le dimanche, et vous venez d'entendre, eh ben oui, Daniel Guichard dans la causerie. Et ben oui, parce que moi je vous le dis, Daniel Guichard, pour moi, c'est un des plus grands auteurs français. Il est très sous-estimé, mais il fait des magnifiques chansons. Et voilà, et celle-là, je la trouve particulièrement ironique. Il a repris une chanson traditionnelle du Moyen-Âge, en fait, qui se moquait des rois, pour la réadapter. Alors, c'était en 91, avec les puissants d'aujourd'hui. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et en y ajoutant des chants derrière.
Et ça fonctionne voilà. toujours.
Et ça marche toujours, c'est très... Voilà. Mais je vous conseille vraiment de découvrir l'œuvre de Daniel Guichard, et qui s'auto-produit aujourd'hui parce qu'il a été viré de sa maison de disques, alors c'est chouette de le soutenir. Mmh. Voilà.
Ok.
Et ben là, on va... Grand écart oblige, c'est la causerie, de temps en temps, on fait des grands écarts.
Attention, préparez-vous, ça va faire mal.
Échauffez les adducteurs, ça va bien se passer. Donc en fait, là, ben, après vous avoir parlé de sujets plutôt graves, on va vous parler d'un sujet plutôt léger. Et en fait, on va vous parler de jeux de société. Et en fait, ben, on avait l'idée de vous parler un petit peu de ce que ça pouvait apporter dans la maison, de jouer, dans la vie, enfin tout ça, quoi.
Ouais, alors c'est... Alors c'est un peu bizarre, hein, peut-être comme ça, à vous amener à vous dire bah tiens, on va parler du jeu, mais parce que finalement, enfin le jeu est quand même quelque chose de très accepté en fait dans notre société française. Alors là, je parle bien à la rigueur de la société française. Quand on est enfant, quand on est ado, et encore ça change maintenant quand même. On rentre dans une
ère où le jeu vidéo,
le jeu vidéo, etc. Ouais. Mais là, on est plus un peu sur le jeu de société, sur les jeux. Enfin, de cartes, les jeux de plateau, les jeux de rôle, les jeux tout ça, pas des jeux vidéo, etc. Ça, c'est encore autre chose.
Bien qu'ils rentrent dans le rôle du jeu, mais
oui, effectivement.
De façon différente.
Mais on le voit, enfin, à l'âge adulte, c'est un peu moins bien vu quand même. Normalement, c'est un truc pour les jeunes, les gamins, etc.
Bah, tentez le coup, hein. Vous dites, vous arrivez à la machine à café le matin, puis vous dites à vos collègues, tiens, hier soir, on a fait une partie de Monopoly avec toute la famille. Bon, faut pas jouer au Monopoly, c'est capitaliste, mais c'était pour donner un exemple. Ouais. Mais on a fait une partie,
une soirée de jeu,
et bah, vous verrez que vos collègues vont vous regarder bizarrement.
C'est ça, ils vont dire, mec, t'es 300 chaînes à la télé, t'as que ça à jouer. Non, mais t'es... Alors pourquoi jouer? Effectivement, parce que c'est vachement bien, parce que ça permet de faire plein de choses, ça permet de se découvrir, ça permet
de découvrir l'autre,
découvrir aussi des choses, ça permet d'apprendre à se connaître, alors soi-même aussi, parce qu'il y a des jeux qui des fois viennent titiller un peu vos positions ou des choses comme ça.
Ouais, par exemple, un jeu lyonnais qui s'appelle Caractère et qui est un jeu qui a été développé par un lyonnais et qui est juste génial. Bon, après, il faut jouer avec des gens avec qui vous êtes vraiment amis.
Parce que justement, ça t'amène à être un peu réaliste sur toi-même. Donc voilà.
En fait, pour juste décrire, c'est le genre de question, en fait, on demande autour de la table qui est le plus susceptible autour de la table. Ouais. Voilà, donc les gens écrivent et puis souvent vous vous rendez compte que vous êtes le seul à ne pas avoir mis votre non. Voilà, c'est assez marrant.
Voilà, c'est un jeu auquel je ne joue jamais. Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Ça apprend aussi le lien social, en fait. Et puis surtout, y a plusieurs types de jeux. Il y a bien sûr le jeu l'un contre l'autre ou l'un contre les autres, mais il y a aussi les jeux coopératifs qui, eux, apprennent justement l'entraide de façon assez, ludique, bah, du coup, parce que c'est un jeu, et puis assez simple, en fait. Et que, du coup, vous pouvez apprendre aux enfants, déjà, et puis aux ados, et puis ensuite aux adultes, à voir qu'il y a des gens à côté d'eux, puis qu'on peut s'entraider plutôt que de s'entretuer. Mmh. Vachement mieux. Je pense à Bioviva par exemple, qui est un jeu, alors ça c'est plutôt pour les enfants, mais qui se joue aussi quand on est adulte, mais qui est plutôt sympa sur les ressources naturelles et qui apprend aux enfants que quand papa ou maman roule avec la voiture, le pétrole il vient d'un endroit très particulier et qu'en fait là-bas les gens ne sont pas super joyeux. Mais voilà, ça permet de, en même temps d'ouvrir des perspectives par le jeu.
Et alors, ce que je voulais quand même rajouter, c'est que le genre de jeu dont on vous parle, c'est le genre de jeu que vous trouverez, mais alors je pense, mais pas du tout en fait dans les circuits peut-être que tout le monde connaît, mais enfin vous les trouverez pas dans les grandes surfaces, je veux dire quoi, vous les trouverez pas,
on va pas les citer,
mais
par contre on va citer les magasins à Lyon où vous pouvez trouver ce genre de jeu.
Ouais. Et parce que en fait ce que vous allez trouver dans les grandes surfaces, c'est le sommet de l'iceberg en fait,
c'est les grandes boîtes comme Hasbro ou autres qui font du jeu de société en fait uniquement sur le toujours basé, c'est Hotel, c'est Monopoly, fait toujours basé sur le capitalisme, sur la lutte les uns contre les autres. C'est très rarement des jeux coopératifs, et puis c'est des jeux un petit petit peu bateau, quoi, on va dire.
Ouais.
La bonne paye, alors ça c'est horrible ça.
C'est ça.
Apprenez à vos enfants à gérer leur paye, c'est horrible ça.
Alors que effectivement, il y a d'autres jeux qui sont vachement bien.
Ouais.
Et alors, bah, ouais, on peut peut-être citer, alors, ça fait bizarre, on fait de la pub d'une certaine manière, mais.
Non, mais c'est pour indiquer aux gens que bah, il y a deux magasins en gros à Lyon où
ouais.
ça se trouve assez facilement. Ça va être Archi Chouette qui est sur le bas des pentes de la Croix-Rousse. Et Descartes qui
ouais.
Qui a certains jeux, voilà.
Ouais.
Sachant qu'Archi Chouette c'est le plus fourni, on va dire quand même, c'est pas faux.
Ouais. Et après aussi vous avez des assos, des bars associatifs ouais. de jeux. Alors ça c'est sur les grandes villes. Alors ça c'est tout le malheur aussi. Pour ben oui, moi je viens de la campagne.
Non mais ça peut donner des idées
mais
aux gens de monter des ludothèques entre guillemets,
ouais.
je sais pas comment dire, mais des bars à jeux, c'est
des
sympa.
Des bars, effectivement, et sur Lyon il y en a deux ou trois au moins.
Il y en a deux, j'en connais deux. Peut-être plus, mais
il y en a peut-être plus. C'est pour ça que.
Voilà. Il y en a deux que je connais.
Et ce sont donc des bars à jeux où vous y allez entre amis ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi y aller seul. Et vous allez, ben, justement, c'est aussi ça le principe du truc. C'est ben, vous pouvez vous mettre à une table et jouer avec des gens que vous ne connaissez absolument pas. Mais le principe, effectivement, du jeu, un des principes aussi, c'est effectivement ben, ben, de briser la glace en fait, des gens qui sont autour de vous. Quoi, ben, parce que. Autant quand on boit un coup ou qu'on mange un coup ensemble, bah, ça brise la glace. Et faire un jeu ensemble, ça brise aussi la glace.
Ouais, ouais,
c'est un de ces moyens, je trouve, de sociabilisation. Je sais pas si on peut dire
clair.
Ça comme ça, mais...
Et le jeu, en plus, c'est un moment où vous vous relâchez totalement. C'est-à-dire où vous êtes, généralement, vous... Ça fait tomber un petit peu les prérequis sociaux qu'on s'impose toute la journée. Et là, quand on joue, on se lâche, quoi, en général, parce qu'on se marre, parce que d'un seul coup, c'est le plaisir qui est en premier, c'est super intéressant, quoi. Et puis que voilà, alors après, il y a des gens qui ont l'esprit de compétition super développé, alors ils vont plutôt s'orienter sur des jeux plutôt compétitifs, et puis il y a des gens qui vont être plutôt dans des jeux humoristiques, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qui vont avoir des jeux de création. Tu voulais parler d'un jeu de création
ouais.
littéraire qui est assez
bien. Ouais, moi, je voulais parler de Cyrano. Alors, je sais pas si... Non, toi, tu n'as jamais vu Clara. Fab, toi, tu l'as déjà.
Ah oui.
Et bien, en fait, c'est un jeu d'écriture.
Ouais.
Et je trouve que. Enfin, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très, très, très longtemps. Et je trouve que c'est vraiment génial, justement. C'est l'écriture qui. Alors, quand vous n'avez pas poussé vos études jusqu'à la fac, l'université, où on vous a fait aimer gratter du papier, et que vous avez plutôt une approche de l'écriture chiante, vous dites que ça vous. Enfin, voilà, que c'est un peu chiant. Et bien, ce genre de jeu-là est vachement intéressant parce que. Alors bon, on va dire que c'est très hétéronormé, hein.
Ah, mais ça reprend Roméo et Juliette.
Bah voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc il y a Juliette qui est en haut et
bien que dans la règle ils disent vous pouvez imaginer que c'est un Roméo ou ce que vous voulez, c'est
bien
pas
bien évidemment. Et que la mission c'est d'arriver à grimper, on va dire jusqu'au balcon. Et c'est un peu une forme de battle, mais c'est pas vraiment sous cette forme-là quand même, parce que c'est plus quelque chose de collaboratif, mais où chacun va écrire un poème.
Alors donc, avec des thèmes imposés.
Avec des thèmes imposés, des sons obligatoires, des sons interdits, des mots interdits. Et ce qui fait qu'à la fin, enfin, après chaque tour, chaque manche, eh ben, chacun va lire son poème et chacune doit y lire le plus beau poème. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est dans une démarche individuelle de création. Ensuite, on en arrive à quelque chose quand même de collaboratif parce que...
Puis en fait, on s'en fout un peu de qui est devant. Enfin, au final, dans le jeu,
ça.
Ce qui est intéressant, c'est de partager. Enfin, le but du jeu, c'est de partager des poèmes. Quoi.
C'est un peu ça. Et c'est beau ce qu'il vient de dire.
Ah non, mais c'est vrai.
Mais oui, là, j'ai envie de m'arrêter, de prendre 2 minutes.
Non, mais voilà. Non, mais parce que souvent, les gens, ils voient le jeu uniquement par le côté compétitif. Et
mais ouais,
final,
alors que non.
Il y a des tas d'autres choses qui existent. Moi, je pense aussi à.
Et puis, c'est comme toi aussi, tu as envie d'approcher le jeu. Quoi.
Exactement.
Il y en a qui vont jouer à des jeux, il faut absolument qu'ils gagnent.
Ouais.
Je citerai aucun nom autour de cette table.
Mais on en connaît.
Mais il y en a au moins un. Ouais. Non, je déconne. Mais ce qui fait, c'est aussi toi, comme tu te places, en fait, comment tu te positionnes. Si t'as envie d'être le ou la vainqueur à mort et d'écraser les autres, bon, bah, effectivement, c'est aussi toi qui mets l'ambiance dans le jeu.
Ouais.
Donc, c'est aussi comment nous, on approche toutes ces choses-là. Est-ce que c'est d'être celui qui a la plus grosse ou celle qui a les plus gros? Je sais pas comment. Bon, ça joue la comparaison chez les meufs, mais mais voilà, et c'est aussi juste partager effectivement du bon moment, quoi.
Et puis aussi être dans la notion de faire tomber aussi les barrières du ridicule, parce qu'en fait par le jeu on fait des choses qu'on n'aurait pas fait dans la vie. Par exemple, il y a des jeux de mimes qui sont assez géniaux. On peut citer Cro-Magnon par exemple, qui est assez génial. Il y a Cranium aussi, qui lui se trouve plus facilement maintenant en grande surface, mais qui est pas mal. Et voilà. Enfin, il y a tout un tas de petits jeux de société comme ça. Enfin, pas petits jeux, mais de jeux de société qui mettent une ambiance assez géniale. Et moi, je vais le redire, il y a pas de honte, par exemple, à aimer jouer au Trivial Pursuit, parce que c'est très bien. Je rappellerai juste que le Trivial Pursuit, il y a des scientifiques qui avaient dit une partie de Trivial Pursuit équivaut à la lecture d'un livre de 150 pages. D'accord. Voilà, c'est intéressant hein, en termes de d'utilisation de son cerveau, donc c'est plutôt positif.
Mais après, effectivement, c'est tout cette comment on peut dire, cette rencontre en fait des choses avec le jeu. T'as effectivement, t'as le côté détente, tu t'amuses, mais en même temps, il y a un apport de choses. Ouais. Et c'est ça en fait qui est vachement intéressant. C'est c'est comme jouer avec des poèmes. Et ben c'est s'approprier les mots, c'est s'approprier la langue, c'est s'approprier l'écriture, mais de manière décontractée, juste en jouant. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est d'appréhender des choses, de découvrir des choses, mais sans avoir un prof face à soi, quoi.
Et puis vous avez donc les fameux bars à jeux qui sont souvent avec des associations qui vont vous apprendre à jouer à certains jeux. Et ça, c'est assez génial. Par exemple, si vous voulez à Lyon vous faire je crois que c'est du jeu de rôle, c'est plutôt Trollune qu'il faut aller voir, je crois que c'est ça, l'association. Que vous avez après deux bars à jeux qui sont moi je m'en fous, je triche, et l'autre c'est mon frère n'aime pas les épinards et c'est tant mieux, je crois, de nom. Toujours des noms improbables, c'est assez drôle. Voilà, et là vous allez avoir des passionnés qui vont vous dire, alors vous voulez jouer à quoi ? C'est quoi plutôt ce que vous aimez ? Et ils vont vous sortir le jeu improbable que vous avez jamais vu et vous avez passé une heure à vous éclater.
C'est ça.
Voilà, ça c'est top.
C'est ça. Et il y a aussi des ludothèques. Enfin, regardez, je crois que c'est Cadilud où on peut aussi louer des jeux, etc. Donc, franchement, essayez, amusez-vous, essayez de sortir un peu aussi là des sentiers un peu.
Bien sûr, des sentiers battus.
Des sentiers battus, de sortir des Scrabble et de tout ça.
Et accepter que vos enfants vous battent au jeu, parce que c'est souvent. Et c'est normal.
Bah oui, voilà. Et puis ça fait partie de la construction, bordel.
Oui, c'est surtout qu'ils ont souvent le cerveau un peu plus plastique que nous, qui avons un peu plus d'âge.
Saleté d'enfant. Ben voilà, alors c'était un peu un sujet. Pas pour tout, mais un peu comme ça.
Une envie. Et puis, on espère un jour peut-être faire une émission avec l'émission L'Air du Jeu, qui est sur Radio Canu et qui, justement, eux, sont plutôt orientés jeux vidéo, mais aussi jeux. Donc, ils sont un peu larges. Ils avaient reçu des concepteurs de jeux de plateau. Donc, ça peut être super. Enfin, on espère un jour faire une émission avec eux pour élargir le sujet. Et puis, voilà, parler avec eux un petit peu de tout ce qui est. Qu'est-ce que c'est que L'Air du Jeu, justement?
Voilà. Ouais, et puis je crois que même à la causerie, il y a pas mal de joueuses et joueurs en fait.
Bon, non, pas du tout.
J'ai pas l'impression.
On n'en connaît pas.
Donc, on pourrait un jour sur une partie, genre pendant une émission.
Les gens vont se faire chier. Ça va être long. Hein. Surtout si on fait un jeu où il faut mimer, tu vois. Là, à la radio, c'est mort.
Ouais, mais je veux dire, la causerie, c'est une expérience aussi. Quoi, tu
c'est
vois.
Vrai.
Donc, bon.
Une heure de mime à la causerie. Ah, c'est horrible. Avec les gens qui font un singe. Non.
C'est énorme. On va peut-être passer à la musique rapide. Ouais. Et après, on vous balance quelques news avant de vous laisser
tranquillement.
Et après, on s'en
va parce qu'il commence à se faire tard.
C'est ça.
Vous êtes toujours dans la causerie et on vient d'écouter Triumphant de Rockstop.
Ah oui, c'était ça.
Eh ben, dis donc.
Un petit trou.
Il se fait tard.
Ça arrive. Alors, on va terminer avec quelques rendez-vous militants ou pas d'ailleurs. Déjà, pour rappeler que, comme tous les lundis, il y a la permanence juridique d'aide aux sans-papiers qui se passe à la Lutine. C'est au 91 rue Montesquieu, c'est dans le 7e.
À partir de 18h30.
C'est ça, jusqu'à 20h30, je crois. Donc 21h30.
J'ai plus l'heure de fin.
Je crois qu'il y a une heure de fin, par contre. Quand même, faites-y attention quand même.
Vous pouvez trouver ça sur rebellion.info.
Voilà, c'est ça. Et puis après, je crois qu'il y a une soirée le samedi.
C'est un expo-atelier avec le collectif A3BC qui vient de Tokyo. Alors A3BC, ça veut dire Anti-War, Anti-Nucléaire and Arts of Block Project. Voilà. C'est un collectif. C'est ça, j'ai dit bien.
Black Print.
Je sais pas pourquoi j'ai mis Project.
Bon. C'est pas grave.
Et Black Print, voilà. Donc en fait, c'est des gens qui sont des activistes, comment on appelle ça, des artivistes, comme on dit dans ce cas-là. Et donc à 11h, il y a un atelier de xylogravure, mais qui est réservé à 10 personnes maximum. Et l'après-midi de 14 à 18h,
oui,
il y a l'exposition des œuvres qui ont été faites le matin. Et peut-être, je sais pas, je suppose des œuvres qu'ils auront amenées, j'en sais rien du tout. Mais j'ai pas toutes les infos. Voilà. Et puis, il y a un repas au milieu de tout ça, mais on n'a pas trop compris sur l'annonce de Rebellion si c'était pour tout le monde ou si c'était juste pour les gens qui participaient. Donc, allez voir sur rebellion.info, puis vous verrez tout tiré.
C'est ça. Nous, on relaie l'info. Hein.
Non, mais vraiment, c'est que la phrase est ambiguë et on s'est demandé. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça a l'air vachement intéressant. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui viennent de l'international. Ça fait toujours du bien d'avoir des militants d'ailleurs qui nous expliquent comment chez eux ça se passe. Voilà. Ouais.
Et on va vite fait.
Appel au don.
Ouais, c'est ça, super. Merci pour ce super jingle.
C'est maintenant.
Pour vous dire que Canu, on va acheter le local où la radio se situe depuis
35 ans.
30 piges ?
Ouais, 35, je crois.
80.
Ouais, enfin, depuis quelques années, quoi.
Enfin, ouais, depuis 30 ans est passé. Ouais. Et donc, c'est sûr, enfin, c'est quasi sûr, on a signé le compromis, tout ça.
Ça fait peur.
Hein. Et donc voilà, mais l'appel à dons continue parce que l'idée quand même c'est de dépendre le moins possible vraiment des banques, parce que l'idée c'est pas d'acheter aujourd'hui pour que dans 20 ans les futurs animateurs et animatrices continuent de payer ce crédit. L'idée c'est de pouvoir quand même que cet achat-là se règle plus rapidement quand même pour pas laisser quelque chose dans les générations à venir. En tout cas autre chose qu'un crédit, un local c'est vachement mieux.
Et d'ailleurs pour rien vous cacher, auditrices et auditeurs, il y a des grandes chances que même après l'achat du local, on continue à vous solliciter sur un soutien qui ne sera pas vraiment un don cette fois-ci, mais plutôt un soutien. Parce que Radio Canu, comme vous le savez, vit du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Je vais y arriver un jour à le dire complètement. Et que ce fonds, en fait, depuis des années, il stagne. C'est-à-dire qu'en fait, il est le même depuis 10 ans quasiment. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas du tout suivi l'inflation. Et donc, quand quelque chose ne suit pas l'inflation, un peu comme votre salaire en ce moment, vous vous rendez compte que vous avez de moins en moins de moyens. Et Radio Canu, c'est pareil. Donc, on commence à être dans des zones un petit peu difficiles. Mais le fait d'acheter devrait déjà nous faire une bonne bouffée d'oxygène.
Espérons-le.
Et on fait comment?
Et donc, attends, parce que là, on dit.
Tu vois derrière moi ou pas?
Oui, je vois derrière toi. Non, mais attends. T'es pas la largeur d'un mur.
Je me suis cru grand à un moment donné, mais c'était dans ma tête.
Une armoire normande. Donc. Pardon.
Facile à démonter, pas facile à monter. Alors, normande, quoi.
Pardon, on se reprend. On est toujours dans l'appel à don, tout ça. Donc, vous pouvez envoyer des chèques de soutien à l'ordre de Radio Canu. Vous l'envoyez à Radio Canu, BP 1101, 69 201, Lyon, CEDEX 01.
Ouais.
Vous avez aussi la programmation, la commission programmation, on va appeler ça comme ça, qui est tous les mardis de 19h à 20h, qui est un lieu normand où les gens viennent déposer leurs maquettes.
Ou poser des questions sur la radio. Et c'est l'occasion d'amener vos dons, si vous voulez. Alors même en liquide, on peut prendre les dons en liquide, mais uniquement justement entre 19h et 20h le mardi.
C'est ça. Et pour celles et ceux qui sont loin ou pas, etc., qui veulent faire un virement, vous allez sur le site internet de Radio Canu. Il y a un petit onglet « Soutenir Radio Canu ». Et puis vous avez toutes les infos pour faire un virement. Précisez juste quand vous faites votre virement
que c'est un don.
C'est juste pour ceux qui ici s'occupent de la gestion du fric, bah, qu'ils comprennent c'est quoi ce pognon qui rentre.
C'est ça. Et puis, n'oubliez pas, de si vous souhaitez avoir un reçu fiscal, alors soit vous le demandez dans un petit mot que vous laissez dans l'enveloppe avec le chèque que vous envoyez, soit vous le demandez quand vous voyez les gens à 19h le mardi, soit vous le demandez quand vous faites un virement, en envoyant un mail à soutenez.radiocanu. Alors, je ne sais plus, c'est soutenez Radio Canu. Enfin, allez sur radiocanu.org, il y a le mail. Je suis désolé, là, je ne l'ai plus en tête, donc je ne vais pas vous dire de conneries. Mais voilà, vous envoyez juste un petit mot en disant « J'ai fait un virement de temps, est-ce que vous pourriez m'envoyer un reçu fiscal qui vous permet de déduire des impôts la part que vous avez versée ?» Et si vous ne payez pas d'impôts et que vous touchez la prime pour l'emploi, c'est rajouté à votre prime pour l'emploi. Donc, ce n'est pas perdu.
Et voilà. Eh bien, on a tout dit. On est à la bourre, ouais, un petit peu.
Mais on a commencé en retard, donc on peut sera un peu en retard pour partir.
Arrête.
Et puis, de toute façon, il n'y a personne après nous pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Donc, on en profite un peu. Donc, bah oui, j'espère qu'on va rentrer des nouvelles émissions.
Ah, oui.
D'ailleurs, venez déposer des maquettes.
Voilà.
Bah, oui.
Pardon. Oui. Et d'ailleurs, aussi, je dis aux auditeurs et auditrices de Lyon, etc., si vous voulez des grilles de Canu, il y a des nouvelles grilles qui sont à l'entrée. Alors, il y en a à l'extérieur quand il n'y a pas d'émission. Et quand il y a une émission, vous pouvez rentrer, c'est dans la première pièce, vous les prenez. Et voilà, parce que bah, Canu, c'est ça, hein, avant tout. C'est une radio,
c'est
non
la radio.
C'est ça.
C'est ça, on fait de la radio ici.
Et donc, voilà, et ben, on va se quitter. Ah oui.
Avec un titre que tu n'aimes pas du tout.
Ouais, c'est ça. Je suis désolé. Je vais vous saouler avec cet album et ses artistes. Donc, on se quitte avec Mansfield Tia, avec le titre La nuit tombe. C'est pour toutes celles et ceux qui aiment ou qui n'aiment pas la nuit, d'ailleurs. Mmh. Et puis, bah, on vous souhaite bah, une bonne nuit quand même.
Oui. Hein, du courage pour ceux qui travaillent.
Ouais, bon courage à celles et ceux qui bossent, à ceux qui bossent pas, à ceux qui vont en cours, enfin, à tout le monde, quoi. Ouais. Et bah, rendez-vous pour la causerie dimanche prochain.
Ouais.
Et puis, bah, des bisous alors.
Des bisous.
Des bisous. Ciao, ciao, ciao.
Salut Clara, merci pour la technique.
Ciao.